Bonjour Jean-Luc Glaize.
Bonjour.
Tout d'abord, en quelques mots, où en est la situation ce matin sur le front des incendies dans votre département?
Alors, elle est en train de se stabiliser progressivement. De toute évidence, les feux cessent de progresser. Donc, nous avons bien évidemment un certain nombre de reprises, puisqu'entre la stabilisation, la fixation du feu et sa véritable extinction, il va s'écouler sans doute quelques jours, voire quelques semaines. Mais malgré tout, pour l'instant, la situation est stable. Nous craignons cependant aujourd'hui des vents d'ouest à 45 km/h qui pourraient réactiver les braises. Donc, nous sommes encore très, très vigilants.
Au-delà des zones qui ont été touchées, même dévastées, est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres massifs forestiers particulièrement menacés dans votre département?
Non, à ce stade, non. Nous avons eu des départs de feu pendant les grands incendies. Et heureusement que les Canadair étaient sur nos incendies. Nous avons pu les détourner et permettre d'éteindre ainsi des feux sur le Médoc, sur 80 hectares, sur le Nord Gironde, une vingtaine d'hectares, et sur les Landes, où 4 feux ont été éteints grâce à la présence des Canadair, ce qui démontre la pertinence des moyens aériens sur site. Mais aujourd'hui, il n'y a pas pour l'instant de risque nouveau. Mais attention, les températures vont monter encore dans les jours qui viennent.
Vous avez semblé plutôt satisfait de votre rencontre avec Emmanuel Macron mercredi. Vous pensez qu'il a bien compris vos besoins et surtout qu'il est prêt à y répondre?
Vous savez, je suis habitué à attendre les preuves d'amour après les déclarations d'amour. Donc, j'ai bien compris qu'il avait entendu un certain nombre de choses de réalité sur à la fois la fragilité de ce massif, le changement climatique, les caractéristiques qui ont fait que ces feux ont pris de l'ampleur et notamment l'absence de moyens aériens. J'espère qu'il y aura des réponses très concrètes. Nous avons depuis hier un hélicoptère un peu particulier qui nous permet d'effectuer des largages. Nous avons des drones militaires qui permettent de survoler la zone pendant la nuit, mais il faudra aller plus loin. Nous attendons évidemment désormais des actes concrets pour constater que nous avons bien été entendus.
Alors, dans une lettre ouverte que vous avez adressée au président de la République, co-signée avec le président du Conseil départemental des Landes, vous avez appelé à repenser le fonctionnement des SDIS. Ce sont plutôt ces services départementaux incendie-secours. Vous déplorez notamment que leurs moyens n'aient pas pris en compte la très forte augmentation de la population dans vos départements au cours de ces dernières décennies.
Oui, en fait, le financement est fondé sur une loi qui date de 2002 et qui a fixé la participation à l'habitant, à la population de 2002, justement. Or, nous sommes 20 ans plus tard, 2002, nous sommes en 2022, nous avons gagné en Gironde 400 000 habitants supplémentaires. Cela veut dire que l'actualisation du financement du SDIS n'a pas eu lieu, donc il nous manque des moyens, à la fois humains et des moyens matériels, et donc nous demandons à ce que la loi soit révisée de manière à ce que la population soit actualisée, que nous ayons le réel financement qui correspond aux besoins des populations girondines.
Plus d'habitants, plus d'incendies, ça veut dire que, sans aucun doute, donc le facteur humain est déterminant.
Alors, il faut savoir que 90 à 95% des incendies sont déclenchés par l'activité humaine, très souvent par
Oui, pas
négligence ou
forcément
par...
malveillante, oui.
C'est pas forcément de la malveillance, mais malgré tout, c'est 90 à 95% l'activité humaine. Donc, on sait que plus il y a d'habitants présents sur un territoire, plus il y a de potentiel d'incendie. Et c'est la réalité qui s'est produite chez nous, puisque en 2002, nous étions à 80 000 interventions par an. Nous sommes aujourd'hui à 148 000 interventions par an.
Dans cette même lettre ouverte au président de la République, vous plaidez pour une organisation des services de cette protection civile qui s'articulerait de trois manières, c'est-à-dire au plan interdépartemental, au plan national et au plan européen. De quelle manière?
Alors, l'idée, c'est de faire en sorte que nous ne soyons pas en concurrence entre régions en France et entre pays également en Europe. Nous savons aujourd'hui que des Canadair, par exemple, sont stationnés en Corse, ce qui se justifie sans aucun doute, mais il n'y a pas de Canadair stationnés aujourd'hui sur le massif des Landes de Gascogne, qui est le plus grand massif de résineux d'Europe avec 1 million d'hectares. Nous voyons également que les frontières de ces grands incendies sont en train de monter jusqu'à la Bretagne et nous voyons que le Portugal, l'Espagne ou la Grèce peuvent être sujets à des grands feux comme ceux-ci. Il faut impérativement que la flotte soit plus importante et qu'elle soit bien répartie à la fois au niveau français et au niveau européen. Et nous réclamons, nous, des moyens aériens permanents en période estivale dans le massif des Landes de Gascogne.
Est-ce que vous pouvez dire combien il faudrait d'appareils de type Canadair ou Dash en France pour répondre à l'évolution, notamment peut-être climatique, et donc à ces risques récurrents d'incendies et d'incendies géants?
Alors, je ne suis pas suffisamment expert sur le sujet. Il revient à des personnes plus habilitées de définir ce nombre. En revanche, j'ai bien entendu le président de la République dire lors de la conférence de presse à l'Ateste qu'il considérait que la flotte était insuffisante aujourd'hui au niveau aérien pour répondre aux risques incendies et surtout au changement climatique qui l'accroît sans cesse. Donc, je crois qu'il faut désormais regarder ce sujet et nous doter réellement de moyens aériens suffisants.
Est-ce que vous avez déjà une idée, Jean-Luc Gleize, de ce que vont représenter ces incendies pour l'économie de votre département?
Nous allons chiffrer le coût réel de cet incendie parce qu'il y a évidemment le volet économique, alors un peu immédiat, c'est-à-dire le côté forestier,
Oui.
sylviculteur et l'impact sur la filière bois. Il y a l'impact sur le tourisme, bien évidemment, qui aura aussi été conséquent. Mais il y a aussi tout le coût environnemental de ces incendies. Nous avons par exemple perdu des lagunes qui sont des lagunes préhistoriques qui se trouvent près du domaine départemental d'Ostens et qui ont été incendiées. Il y a donc aussi un coût environnemental qui sera énorme, y compris sur la question du bilan carbone, puisque cette forêt capte énormément de CO2 et qu'elle est extrêmement précieuse aujourd'hui dans le cadre du changement climatique.
Oui, de 21 000 hectares, je crois même un peu plus, 21 000 hectares brûlés. C'est aussi, et ça c'est peut-être plus difficile à mesurer, mais c'est aussi un bouleversement très profond pour les personnes qui habitent aux abords de ces massifs forestiers, des riverains qui pouvaient en profiter au quotidien.
Oui, l'habitat, particulièrement sur le feu de l'Andira, c'est un habitat diffus qui est composé de maisons qui sont dans des petits villages et qui sont souvent réparties dans ce qu'on appelle la lande, c'est-à-dire la forêt, et qui donc bénéficient évidemment d'un paysage, d'un environnement tout à fait de très grande qualité. Et donc désormais, pour avoir parcouru à de multiples reprises le théâtre de feu, désormais c'est un spectacle de désolation qu'il y aura autour de ces maisons qui ont été elles-mêmes préservées.
21 000 hectares de forêt, c'est énorme, je le disais. C'est 210 kilomètres carrés, c'est deux fois la surface de Paris intramuros. Vous l'avez évoqué, cela peut avoir une incidence environnementale quasiment quantifiable sur votre département?
Alors, nous allons essayer d'avoir des indicateurs assez précis pour pouvoir estimer ce coût environnemental de cette perte de forêt. C'est évidemment énorme. Alors, ce sont 20 000 hectares sur 1 million. Ça peut paraître peu quand on le ramène à ce chiffre-là. Ce sont aussi 980 000 hectares qui peuvent encore brûler avec des incidents climatiques comme nous les connaissons. Et puis, je veux en profiter simplement pour tirer un énorme coup de chapeau à tous ces pompiers parce que nous venons d'évoquer les maisons qui restent. Eh bien, ils ont sauvé énormément de maisons à la fois sur la Teste et à la fois sur l'Andiras. Et donc, à ce titre, ils sont absolument extraordinaires. Je les ai vus devant des images d'enfer et ils sont absolument fabuleux.
Qu'est-ce que ces incendies vont changer pour le tourisme en Gironde? Le président de la République, il a dit qu'il allait falloir rebâtir les campings, dont certains sont très célèbres, mais qu'il allait falloir les rebâtir autrement. Qu'est-ce qui devra changer?
Alors, de toute évidence, il y aura deux éléments à prendre en compte. Il y aura évidemment la question de la proximité avec le milieu forestier. On a notamment sur cette région de l'Ateste, de cette commune, cette forêt usagère qui était très particulière puisqu'elle n'était pas entretenue, puisqu'elle avait vocation à être ce que j'appelle pardon, une petite Amazonie girondine. Et donc ces campings étaient construits vraiment à la lisière de la forêt. Ils étaient aussi construits sur le littoral, avec donc le risque également du recul de traits de côte. Donc je pense qu'il faudra, en termes d'urbanisme, réfléchir à ces questions-là avant de les reconstruire.
Merci Jean-Luc Gleize, merci, bonne journée.
Merci à vous.